Je lis tout de suite la question. Donc, les questions qui sont posées par rapport à ce que nous avons peut-être dit la dernière fois. Pouvez-vous nous dire ou nous redire ce qu'est la dialectique et pourquoi n'est-elle pas possible à mettre au service de la parole de Dieu et de la foi ? Nous y reviendrons, ça. Je sais bien que c'est le dernier cours de la théologie fondamentale. Je ne peux pas tout dire. C'est très important. Hein. On va peut-être le dire tout à l'heure. Hein. Mon père, n'est-ce pas que le nom de théologie fondamentale est possible aussi à une théologie hegelienne ? Ou est-ce qu'il n'est possible que lorsque la qu'il n'est possible qu'en vue de la philosophie aristotélicienne d'aller si loin dans la théologie fondamentale que nous sommes allés. Une théologie qui est fondée sur une théologie hegelienne, sur une philosophie hegelienne, au fond, n'accepterait-elle pas qu'il soit équivocité pour entrer, pour l'équivocité pure entre la parole humaine et la parole divine ? Est-ce que le souci d'une telle théologie n'est-il pas seulement d'expliquer le mystère au lieu de pénétrer plus avant dans le mystère tout en le respectant ? Est-ce que le souci d'une telle théologie n'est-il pas seulement d'expliquer le mystère au lieu de pénétrer plus avant dans le mystère tout en le respectant ? Je lis exprès hein, diverses questions. Dans la théologie fondamentale, qu'est-ce que c'est la parole de Dieu ? Qu'est-ce que c'est la parole de Dieu ? Nous nous demandons, dans la théologie fondamentale, qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu ? Le seul moyen de répondre à cette question n'est-il pas de regarder dans la Bible ce qui nous est révélé sur la parole divine, ce que Dieu lui-même nous dit sur ce qu'est la parole ? Oui, c'est un préambule, ça. Parce que la parole de Dieu donne des propriétés sur la parole de Dieu, mais ne nous dit pas le rapport entre la parole de Dieu et la parole humaine. Oui, c'est là où joue la théologie fondamentale. Je vais revenir là-dessus un instant, parce que c'est peut-être ça qu'il faut que vous voyez bien. J'ai vu que dans les interrogations, je reviens toujours là-dessus, parce que je crois que c'est très important. Et d'une certaine manière, c'est décotère. Vous n'avez pas fait beaucoup de théologie, alors c'est plus difficile pour vous. Mais d'une certaine manière, c'est bon de le faire au point de départ. En effet, n'est-ce pas le seul moyen pour qu'il est impossible à notre intelligence humaine de dire par elle-même, sans la révélation, ce qu'est la parole divine, mais seulement d'affirmer dans un jugement que Dieu existe et que la parole de Dieu existe ? Faisons attention, hein. La théologie fondamentale présuppose la foi. Donc, dans la foi, je présuppose la connaissance de la Bible. Le croyant, c'est celui qui connaît la Bible. Donc, je présuppose que vous connaissez parfaitement la Bible. Hein? Autrement, vous n'êtes pas entièrement croyant. Non, vous avez brouté dans les grands pâturages. Et les grands pâturages, c'est la Bible. À travers toute la Bible, je découvre ce qu'est la parole de Dieu. Et puis je constate qu'il y a eu une théologie. Les pères de l'Église ont tout de suite fait une théologie. Et même à l'intérieur de la révélation, il y a une certaine théologie. Je vois Jésus qui parle à Nicodème. Et quand Jésus parle à Nicodème, il fait un peu de théologie. Je vois l'épître aux Hébreux, c'est de la théologie. Et puis je vois les pères de l'Église, ils ont fait de la théologie. Alors est-ce que les pères de l'Église se sont complètement trompés ? Non, la théologie existe et l'Église reconnaît qu'il y a une théologie. Je me pose la question, moi, aujourd'hui, chrétien du XXe siècle, je me pose la question, comment la théologie est-elle possible ? Oui, ça, c'est la théologie fondamentale. J'ai dit ceci, hein. La théologie fondamentale est à la théologie tout court ce que la critique est à la philosophie tout court. Oui. Théologie fondamentale, donc, la critique, c'est l'attitude réflexive. Chaque fois que l'attitude réflexive sur une philosophie qui existe. Il y a une philosophie qui existe. L'histoire de la philosophie, c'est bien évident qu'elle existe. Il y a de multiples philosophies. Qu'est-ce qui me permet de choisir une philosophie plutôt qu'une autre ? On va dire, ah oui, si on choisit Aristote, très bien, j'obéis. Bêtement. J'obéis, c'est tout. C'est très bien d'obéir. Mais ce n'est pas philosophique. Donc, vous devez pouvoir justifier en face d'un hégélien que vous choisissez l'aristotélisme. Du moins, que vous vous mettez dans le sillage d'Aristote. Hein, parce qu'on se sert d'Aristote avec une liberté étonnante. Il faut servir Aristote d'une liberté étonnante. Aristote est là, un pionnier. Il a dit des choses intelligentes, très intelligentes. Bon, je peux les garder. Platon a dit des choses très intelligentes. Qu'est-ce qui me permet de garder des choses de Platon et des choses d'Aristote? Qu'est-ce qui me permet de garder des choses de saint Thomas? Qu'est-ce qui me permet ça? La critique. Je réfléchis sur cette philosophie. Pas seulement l'histoire de la philosophie. Il y a une critique de l'histoire de la philosophie, mais sur la philosophie tout court. Chaque fois que je fais la philosophie, je réfléchis sur la philosophie. Et je m'oriente. Qu'est-ce qui est au cœur de toute la critique, cette attitude réflexive? C'est le concept d'être. Face à Heidegger. Heidegger dit pas de concept d'être. Et je dis, s'il n'y a pas de concept d'être, il n'y a pas de philosophie possible. La condition sine qua non de toute la philosophie, c'est qu'il y a un concept d'être. Ça, je crois. Et c'est ça le but de la critique. La critique montre le fondement, la condition sine qua non. S'il n'y a pas de concept d'être, à la manière de Heidegger, alors je pourrais dire, attention, peut-être que quand Heidegger parle de concept, il ne dit pas du tout la même chose que moi. Ah, alors il y a peut-être possibilité de donner encore la main à Heidegger, et de dire que mais il n'est pas si bête quand même. Alors, il veut dire peut-être quelque chose de tout à fait différent. Quand Bergson parle de concept, il dit quelque chose de tout à fait différent de ce que nous disons. Ah, à quel moment il y a eu l'erreur? Descartes. Et même avant Descartes, Occam, hein, j'ai eu une erreur. C'est vieux cette erreur. C'est vieux, c'est d'ailleurs, dans la mesure où j'atteins la vérité, je peux mieux saisir les erreurs. C'est vrai, il y a eu un moment où il y a eu une identification entre concept et idée. Descartes, c'est ça. Alors, y a-t-il une idée de l'être? Oh non. Qu'est-ce que dit Heidegger? Heidegger dit, s'il y a un concept de l'être, il y a un intermédiaire entre la réalité et ce que je pense. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas y avoir de concept d'être. Heidegger est en réaction violente contre l'idéalisme de Heidegger, de Hegel. En réaction violente. Une philosophie ne peut exister que si elle saisit l'être. Penser l'être. C'est tout le côté positif de Heidegger. Penser l'être. Et pour, qu'est-ce qu'il veut? C'est rétablir ce contact direct de l'intelligence avec la réalité. C'est ça qu'il veut. Et là, nous sommes parfaitement d'accord avec lui. Entièrement d'accord avec lui. C'est vrai. Saisir l'être sauvage, hein, de Merleau-Ponty. Saisir l'être avant qu'il soit falsifié. Saisir la réalité dans ce qu'elle a de plus fondamental et de première. C'est ça qui est intéressant. Alors, comme pour lui le concept, c'est identique à l'idée, il ne peut pas y avoir d'idée de l'être. Parce que l'idée de l'être, c'est tout l'idéalisme. Alors, je connais l'être avant de regarder la réalité. Et tout l'effort d'un Descartes, c'est d'essayer de comprendre comment je puis rejoindre la réalité. Alors, il y a quelque chose de très beau et de très juste dans la réaction de Heidegger, c'est que Si le concept d'idée, c'est ce qui est connu, en premier lieu, je ne peux plus connaître la réalité réellement. Je mesure la réalité en fonction de ce que je connais. Donc, le concept d'être est un quoi ? Confusion entre le quoi et le quoi. Cette petite distinction si importante. Le quoi, ce n'est pas ce qui est connu, c'est ce par quoi je connais. Or, pour Heidegger, c'est net. Pourquoi dit-il qu'il n'y a pas de concept d'être ? Parce qu'il veut dire qu'il y a un contact direct de l'intelligence avec la réalité existante. Et c'est ça qu'il veut. Penser l'être, c'est ça. Alors, c'est très difficile, hein ? L'être, qu'est-ce qu'il est pour Heidegger ? Puisqu'il n'est pas dans les étangs. Alors, l'être à l'état pur, il n'est que dans l'esprit. Penser l'être, est-ce que c'est pas penser l'esprit ? Il n'a pas été assez loin dans la critique de Hegel. C'est vrai que le lieu où je trouve le mieux l'être, c'est où ? Est-ce que c'est dans le caillou ? Non, sûrement pas. Est-ce que c'est dans l'eau ? Non, sûrement pas. Est-ce que c'est dans l'animal ? Non, sûrement pas. C'est dans l'homme. Et l'homme, c'est quoi ? C'est pas le corps, c'est l'esprit. Et donc, où je trouve le mieux l'être, c'est dans l'esprit. Et c'est pour ça que c'est la pensée de la pensée. Je réfléchis sur ma pensée, et ma pensée à l'état pur n'existe que si elle saisit l'être. Et donc, penser l'être, c'est réfléchir sur la pensée de la pensée. Vous voyez ? Je retrouve cette chose très très fondamentale, qui est très intéressante, mais qui, au fond, ne va pas assez loin dans la critique hegelienne. Parce que je reste encore dans ce primat de la pensée. L'être, ce n'est pas la pensée. C'est par la pensée que je saisis l'être, mais l'être n'est pas la pensée. Et si je réfléchis sur ma pensée, même dans ce qu'elle a de plus fondamental et de plus profond, il y aura encore un intermédiaire entre ma pensée et la réalité. Donc Heidegger n'a pas été assez loin. Et Heidegger a maintenu cette confusion entre le quoi et le quoi, entre le concept et l'idée. Quand je parle du concept d'être, je suis dans l'ordre de l'appréhension et je considère que c'est le quoi par lequel je peux poser le jugement d'existence. Ce n'est pas en réfléchissant sur mon concept d'être que je suis en métaphysique, mais le concept d'être est la condition sine qua non pour que je puisse poser le jugement d'existence. Ceci est. Je ne peux pas poser ce jugement d'existence, ceci est, si je n'ai pas un concept d'être. Donc c'est la condition sine qua non. Voilà ce que me donne la critique. La critique me donne des conditions sine qua non pour que, de fait, je puisse philosopher. S'il n'y a pas de concept d'être, je ne peux pas philosopher. Et ce concept d'être, c'est le quoi. Ce par quoi je peux, en critique, saisir ce concept d'être comme le concept fondamental. Comme le concept fondamental de toute ma vie intellectuelle. Primo cadit in intellectus ens. Vous voyez, quand saint Thomas dit ça, saint Thomas ne précise pas si on est en critique ou en métaphysique. C'est pour ça que, de fait, en scolastique, on l'a pris comme en métaphysique, alors qu'en réalité, c'est en critique. Qu'est-ce qui cadit in intellectus ? C'est l'appréhension. C'est vrai, si je ne conçois pas l'être en premier lieu, je ne conçois rien du tout. Toute ma vie intellectuelle est dépendante de ça. Et donc, en critique, je saisis, je déterre. C'est un travail de taupe, la critique. Je déterre cette chose particulière, fondamentale dans ma vie intellectuelle. Qu'est-ce qui est premier dans ma vie intellectuelle ? Quel est l'élément de ma vie intellectuelle ? Ce concept de ce mystère court, ce
pas un point.
Si c'est un point, je serais tout à fait d'accord avec Heidegger. Donc quand il dit qu'il n'y a pas de concept d'être, il devrait dire qu'il n'y a pas d'idée, d'idéa. L'être n'est pas saisi comme, du moins, le concept d'être n'est pas un quod. Ce qui est connu en premier lieu, c'est ce par quoi je peux poser le jugement d'existence. Et le jugement d'existence me met en présence de la réalité. C'est par le jugement d'existence que je suis directement en contact avec la réalité. C'est pas par mon concept d'être. Mon concept d'être, il est la condition sine qua non du jugement d'existence. Vous ne pouvez pas poser le jugement d'existence, ceci est, s'il n'y a pas un concept d'être. Je ne dis pas intuition de l'être, mais concept d'être. Donc voyez ce que fait la critique. Alors, transposer. Quel est l'analogue du côté de la théologie fondamentale? Puisque nous avons dit que c'est l'analogue. La théologie fondamentale, c'est l'attitude réflexive de la théologie. Quelle est la condition sine qua non pour que la théologie puisse exister? Je transpose. C'est ça qu'on se pose la question. La théologie fondamentale, c'est le fondement. Quelle est la condition sine qua non pour que la théologie existe? La théologie présuppose la foi, bien évidemment. Pas de théologie sans la foi, ça c'est sûr. Mais c'est pas ça la condition sine qua non. Hein. La foi, c'est parce que la théologie implique foi plus intelligence. Toute théologie, c'est foi l'intelligence. Hein. C'est foi et intelligence. C'est une mixture. La théologie, c'est un mixte. C'est un mixte, la théologie. C'est pas simple. C'est pas simple du tout, la théologie. La foi est simple. La philosophie est simple. Mais la théologie, non. C'est pour ça que quand on enseigne la philosophie, qu'après on enseigne la théologie, on voit très bien que la philosophie, elle est simple dans sa recherche. C'est l'intelligence et la réalité. La théologie, c'est la foi plus l'intelligence, et une intelligence autant que possible, suffisamment affinée pour servir la foi, c'est-à-dire une intelligence plus que la philosophie. C'est ce qu'on fait. On met la philosophie au service de la foi. Quelle philosophie peut-elle être au service de la foi? Et donc, je me pose la question ici, quel est le fondement, la condition sine qua non pour que la théologie puisse exister? L'analogue du concept d'être. Alors vous allez dire, c'est le concept de Dieu, c'est bien évident, d'un côté c'est le concept de Dieu. C'est sûr, s'il n'y a pas de concept de Dieu, il n'y a pas de théologie. Le concept de Dieu existe-t-il? Non. Il n'y a pas de concept de Dieu. Vous avez un jugement d'existence. Un jugement d'existence, Dieu existe. Dieu fait. Un jugement d'existence. Dieu est saint. Il y a un jugement d'existence pour l'égard de Dieu. Mais ce jugement d'existence, comment existe-t-il au niveau de la foi, au niveau de l'intelligence? Mais la condition sine qua non, pour que la théologie existe, il faut un jugement d'existence. Mais le comment de cet existe, comment ce jugement d'existence, eh bien ce jugement d'existence au niveau de la foi, il est donné à travers la parole de Dieu. Mon jugement d'existence au point de vue de la foi se donne à travers la parole de Dieu. Je ne peux pas faire un acte de foi sans la parole de Dieu. Impossible. Je ne peux pas faire un acte de foi sans la parole de Dieu. La parole de Dieu est toujours présente. Quand je fais un acte de foi, tout le temps. Condition sine qua non de toute la théologie, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est aussi la parole humaine. Ou si vous voulez, la parole d'un homme. Parce qu'elle m'est transmise à travers un homme. La parole de Dieu n'est jamais autant parole de Dieu que quand c'est la parole de Jésus. Et la parole de Jésus, c'est à la fois la parole du Verbe et la parole d'un homme. Alors, est-ce que ce n'est pas ça la condition sine qua non pour qu'il y ait la théologie? C'est que justement, la parole de Dieu est une parole humaine. Si la parole de Dieu est une parole humaine, il y a donc un contact réel entre ces deux jugements d'existence, parole de Dieu, parole humaine. S'il y a un contact réel entre les deux, il y a donc possibilité, puisque Dieu a voulu unir la parole divine et la parole humaine. Il y a donc possibilité pour moi de comprendre la parole humaine contenue dans la parole divine. Et si j'essaie de comprendre la parole humaine contenue dans la parole divine, ce n'est pas pour ne plus regarder la parole divine, c'est pour essayer de mieux saisir cette parole divine. Et donc la condition sine qua non pour que la théologie existe, c'est bien le mystère de la parole divine contenant la parole humaine. Si Dieu n'avait pas pris un langage humain, il n'y aurait pas de théologie. Ça, c'est sûr. Si Dieu illuminait mon cœur, hein, chacun individuellement, et moi, je ne peux pas vous parler, je suis illuminé, mais je ne cherchais pas de théologie. C'est parce que, de fait, Dieu se sert de la parole humaine qui est une théologie objective. Et une théologie peut être une science, parce qu'il y a l'objectivité de la parole humaine. Dieu se transmet à travers cela. Alors, c'est ça qui est important à saisir. C'est que je vois donc l'analogue de la critique au niveau philosophique et ici au niveau théologique. C'est très intéressant de voir ça. Parce que la parole, c'est le conditionnement de la vie intellectuelle. C'est plus le concept. D'une certaine manière, la critique métaphysique va plus loin que la théologie fondamentale. Il faut le reconnaître. Puisque la critique philosophique touche le concept. La critique théologique ne touche pas le concept. Touche la parole. La parole, c'est quelque chose d'extérieur comparablement au concept. Pourquoi la critique théologique ne va pas jusqu'au concept ? Ah, c'est très simple. La foi ne me donne pas un nouveau concept. Est-ce que la foi me donne un nouveau concept d'être ? Est-ce que la foi me donne une nouvelle métaphysique ? Est-ce qu'elle me donne un nouveau concept d'être ? Non, la foi ne me donne pas un nouveau concept d'être. La foi me donne un nouveau jugement d'existence. Ah, attention, la foi me donne un nouveau jugement d'existence. Est-ce que c'est tout à fait vrai ? Au niveau du jugement d'existence de Dieu, la foi ne me donne pas un nouveau jugement d'existence au niveau de Dieu. Quand je dis Dieu existe, que je sois croyant ou que je sois métaphysicien, c'est la même affirmation. Dieu existe, c'est le même Dieu. Pas le Dieu des philosophes et le Dieu des chrétiens, c'est le même Dieu. Donc le jugement d'existence, dans ce qu'il a de tout à fait précis, est le même. Mais le jugement d'existence de la foi m'est donné par la révélation, tandis que le jugement d'existence du philosophe m'est donné par une découverte, une démonstration a posteriori. Mais c'est le même jugement d'existence. Alors vous comprenez bien que ce n'est qu'au niveau de la parole que je peux distinguer parole de Dieu, parole humaine. Et donc le fondement de la théologie fondamental. Le fondement, ce pourquoi la théologie existe, c'est bien regarder la parole de Dieu, la parole de Dieu. Pour que vous compreniez un peu mieux, vous voyez que tout le petit travail que nous avons fait pendant l'année, comparer la parole divine à la parole, mais c'est vraiment le fondement de la théologie. Si nous ne faisons pas ça, nous ne comprenons pas comment la théologie peut exister. Puisque au niveau du concept d'être, rien de nouveau. C'est pas parce que je suis croyant que j'ai un nouveau concept d'être. C'est pas parce que je suis croyant que je deviens métaphysicien. Au baptême, mais un métaphysicien de plus. Non, non. Non, la métaphysique, non, c'est autre chose. C'est le travail de mon intelligence qui me fait découvrir le concept d'être. J'acquiers le concept d'être. C'est un concept qui est acquis. C'est pas un concept infus. C'est Rosmini hein, qui veut dire que le concept d'être est inné, mais pas inné avec le baptême. Lui, il dit inné tout simplement. C'est un concept inné. C'est un concept donné par Dieu pour lui. C'est l'innéisme du concept. Donc, la métaphysique nous relie directement à une illumination de Dieu, un vieux reste augustinien qui reste. C'est le concept d'être. C'est beau du reste, c'est beau, c'est intéressant. Ça fait bien comprendre justement que le fondement de toute la métaphysique, de la philosophie, c'est le concept d'être. Un concept d'être acquis. On peut ajouter ça tout de suite. Un concept d'être acquis. Est acquis très très vite. Prius concepit, primo cadit in intellectus ens. Dès que vous faites un acte d'intelligence, même quand vous êtes dans votre berceau, dès que vous êtes un acte d'intelligence, je ne sais pas à quel moment l'enfant va faire l'intelligence. C'est la première fois qu'il souriait sa mère. Cadit in intellectus ens. C'est extraordinaire. Je ne sais pas. Ça, on le verra au ciel. Très beau. Voir la génétique de la métaphysique au ciel. Voyez. Ce premier moment de la conception au niveau proprement, au premier point biologique, c'est très intéressant. Voir le premier moment où mon intelligence s'est nouée. Tout de suite, concept d'être. Oh, on a un concept d'être très confus, très très confus. C'est quand même le concept d'être. Parce que le concept d'être, il est acquis dans la confusion du tout. C'est toutes les philosophies du tout. Toutes les philosophies du tout, c'est confus. Et puis, un concept analogique. Ça, c'est très très précis. Analogique, le concept d'être, c'est purifié. Il est passé du tout à quelque chose de beaucoup plus précis. Et je vois que ce concept d'être va impliquer toutes les rationnes transcendantales. Alors c'est encore plus parfait. J'ai fait de la métaphysique pendant des années, et alors je peux dire que dans ce concept d'être est présent la ratio boni, concept de bien, concept d'un, concept de toutes les transcendantaux sont présents dans ce concept d'être. Oui, je peux dire ça. Le concept d'être va demander de s'expliciter dans les différents transcendantaux, mais il implique tous les transcendantaux. C'est vraiment le concept fondamental. Bien, l'analogue au niveau de la théologie fondamentale, c'est la parole de Dieu, incluant la parole de Dieu. Et tout l'effort du théologien, c'est de comprendre ce qu'il y a de propre à cette parole divine. Oui. Alors, ce n'est pas au niveau du concept. Au niveau de la parole, donc au niveau du jugement, pas au niveau du jugement d'existence. Non, je dépasse le jugement d'existence. Le jugement d'existence est présupposé, mais je le dépasse. C'est pas au niveau du jugement d'existence, parce que la théologie, elle est au niveau du comment. Comment Dieu existe-t-il ? Non, c'est le comment Dieu existe. C'est pas Dieu. Dieu est, mais comment Dieu existe-t-il ? Parce que je ne peux pas saisir ce qu'il est, je saisis son comment, à travers la parole de Dieu. Et toujours à travers la parole de Dieu. En comprenant que cette parole de Dieu implique la parole humaine. Si cette parole divine implique la parole humaine, il y a donc une signification de cette parole humaine que je peux regarder. Mais quand la parole humaine est assumée par la parole divine, la parole humaine est dans un état particulier, puisqu'elle est toujours au niveau de Dieu. Le théologien regarde tout dans la lumière de Dieu, pas dans la lumière de l'homme, dans la lumière de Dieu. Donc, la parole humaine assumée par la parole divine est une parole qui est au niveau de la sagesse. Puisque c'est au niveau de Dieu, c'est au niveau de la sagesse. Et donc, je pourrais essayer d'expliciter la parole de Dieu en me servant des raisons rationnelles, comme dit certainement, des rationnelles qui sont au niveau de la sagesse. C'est-à-dire des rationnelles qui n'impliquent aucune imperfection. Alors là, je retrouve le problème de l'analogie. Et je peux répondre qu'une philosophie hegélienne ne peut pas être au service de la théologie. Et tous les relents hegéliens, qui sont nombreux, toutes les retombées hegéliennes, ne peuvent pas être au service de la foi. Pourquoi ? C'est ça qui est intéressant. Pour pouvoir vraiment qu'une pensée philosophique soit au service de la foi, elle implique cette distinction entre l'appréhension et le jugement. Une philosophie qui n'implique plus la distinction entre appréhension et jugement va toujours s'ajouter de l'extérieur. Et donc, à la place d'expliciter la parole de Dieu, elle va s'ajouter à la parole de Dieu. Et elle va devenir rivale de la parole de Dieu. Et au bout d'un certain temps, elle va évacuer le mystère de la parole de Dieu. Il n'y aura plus que la parole humaine. C'est ce qui existe dans la philosophie hegélienne. La philosophie hegélienne évacue ce qu'il y a de transcendant dans la parole divine, pour qu'il n'y ait plus que la parole humaine. Eh bien, chaque fois que vous vous servez de la philosophie hegélienne pour faire de la théologie, il y a ce phénomène qui se traduit. Et vous comprenez pourquoi ? Parce que il faut pouvoir discerner la modalité particulière de la parole divine et de la parole humaine. Il faut pouvoir discerner ce que représente le jugement d'existence et les concepts que j'ai. Comprendre que les concepts que j'ai, les plus parfaits que j'ai, ces concepts sont acquis, proviennent de ma philosophie, proviennent de ma sagesse. S'ils proviennent de ma sagesse acquise philosophique, ils ne sont pas la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'il y a de tout à fait divin ? C'est le jugement d'existence qui atteint le mystère. Si je ne fais pas la distinction entre le jugement d'existence et l'appréhension, comme toujours dans la dialectique hegélienne, dès que la distinction entre appréhension et jugement n'existe pas, c'est pour ça que c'est une distinction si capitale, Je transforme la parole de Dieu en me servant de la dialectique. Et à la place d'être serviteur de la parole de Dieu, je la transforme dans ma propre dialectique. Parce qu'il n'y a pas la distinction entre jugement d'existence et appréhension. Vous le verrez mieux, ça, progressivement. Hein, tel que je vous le dis maintenant, comme ça, vous pouvez très bien ne pas le voir. Mais vous le verrez mieux, progressivement. En voyant justement que toujours, c'est le problème de l'analogie, ce que nous avions touché la dernière fois, vous voyez, nous retombons sur nos pattes. Hein. Le problème de l'analogie, le problème de la signification. La parole humaine a une certaine signification. Quand cette parole humaine est assumée par Dieu, par le Verbe de Dieu, il y a un nouveau jugement. Et donc la signification n'est plus la même. C'est vrai, elle n'est plus la même. Comment comprendre que la signification n'est plus la même ? C'est le passage, vous voyez, tout simplement, de l'appréhension au jugement. L'appréhension de l'être à être. Ceci est l'appréhension du concept au niveau du verbe. Donc, on distingue l'appréhension et le jugement. Et on comprend que la parole de Dieu m'est toujours donnée au niveau du jugement. Puisque je ne saisis pas ce qu'est Dieu, je n'ai pas d'appréhension de Dieu. Je ne peux avoir qu'un jugement d'existence de Dieu. Et un jugement d'existence sur la manière dont Dieu existe, mais pas ce qu'il est. C'est donc à l'égard de la manière d'exister de Dieu que je pourrais essayer de comprendre mieux ce qui est affirmé, mais pas au niveau de ce qu'il est. Il faut donc pouvoir faire la distinction entre le ti esti et le pos. Ti esti, ce qu'est la chose et comment elle existe. Distinction donc entre appréhension et jugement. Si je n'ai pas cette distinction-là, je fausse tout. Ou alors je dis la théologie est impossible, Karl Barth, ou la théologie fait que progressivement la parole de Dieu est absorbée par la parole humaine. Je crois que ce sont les deux possibilités qu'il y a. Dès que je suis dans une non-distinction de l'appréhension et du jugement. Or, cette distinction de l'appréhension et du jugement relève d'une philosophie réaliste. Seule une philosophie réaliste peut distinguer ces deux moments. Je ne dis pas une philosophie aristotélicienne, non, parce qu'Aristote n'a pas non plus distingué parfaitement ces deux moments. Saint Thomas les a distingués d'une façon beaucoup plus parfaite qu'Aristote. C'est une distinction qui peut se faire qu'au niveau d'une philosophie réaliste. L'appréhension et le jugement. Et au fond, tout relève de ça. Alors, une fois que vous avez saisi un peu ce point de vue-là, vous comprenez que la philosophie va apporter aux croyants des rationes. Quand je dis des rationes, je veux dire des raisons particulières. La philosophie ne peut pas apporter aux croyants le jugement d'existence, puisque le jugement d'existence est présent dans la foi. Donc il n'en a pas besoin. Je mets entre parenthèses le jugement d'existence. Qu'est-ce qui reste au niveau de la sagesse? Des rationes. Et c'est ça que le philosophe apporte au théologien. Il faut que le philosophe soit très pauvre pour apporter ses rationes. Vous allez tout de suite comprendre, hein, dès le point de départ. J'essaie de regarder comment commence la somme théologique de saint Thomas. La recherche de la simplicité. Dieu est simplicité. Dieu est saint, pas important. Dieu est saint. Il est tout à fait simple. Voilà le premier jugement d'existence de la théologie. Saint Thomas n'aurait dit que cela, la théologie scientifique existe. Un seul jugement suffit. C'est extraordinaire, tu vois ça. Un seul. Saint Thomas aurait simplement dit Dieu est tout à fait saint, vous avez la conclusion d'un jugement d'existence. Vous avez la conclusion de la théologie scientifique. Donc, c'est à partir de là que je comprends ce que c'est, comment la philosophie va aider la théologie. Dans la perspective de saint Thomas, je regarderai après s'il y a d'autres perspectives, hein, s'il y a un pluralisme théologique. Puisqu'aujourd'hui, c'est à la mode. Faut-il y a un pluralisme théologique? Donc, il faut se poser la question. Mais il faut d'abord regarder ce qui existe. Je peux dire tout de suite que saint Thomas est le seul à dire que la théologie est scientifique. Hein. Ce n'est pas saint Bonaventure qui le dit de cette manière-là. Il n'y a que saint Thomas qui l'a dit. Et aujourd'hui, on refuse. Ça, c'est autre chose, c'est d'autres positions. Donc, si je prends la théologie dans ce qu'elle a de plus ultime, c'est de dire il y a une théologie scientifique. Ça, je crois. Parce que dire une théologie descriptive, une théologie, ça peut aller. Hein. Mais ce qui est très curieux, c'est de dire qu'il existe une théologie. C'est une audace prodigieuse de la part de saint Thomas de dire ça. Ça n'a pas été dit avant. Et premier jugement, une théologie scientifique existe, il y a des jugements scientifiques. Un jugement scientifique, c'est quoi? Ah, attention, saint Thomas nous dit que la théologie est une théologie scientifique subalternée à la science des saints. Ce n'est pas une théologie scientifique tout court. La théologie n'a pas d'autonomie. Le théologien n'a aucune autonomie. C'est ça qui exaspère les théologiens d'aujourd'hui. Parce qu'ils voudraient avoir l'autonomie du matheux, du physicien, des sciences humaines, qui n'ont pas beaucoup d'autonomie, du reste, ça ne fait rien. Mais il voudrait avoir ses autonomies, il voudrait avoir une autonomie. Or, le propre de la théologie, c'est d'être une science subalternée à la science des saints, dit saint Thomas. La science des saints, c'est quoi? C'est la vie humaine. La théologie est une attente de la vision béatifique. Et les théologiens sont impatients Alors, ils mettent entre parenthèses la vision de la vie. Ils voudraient que la théologie scientifique soit une théologie scientifique autonome. Si la théologie est une science subalternée à la vision béatifique, moi je n'ai pas la vision béatifique, hein. Vous non plus. Et pourtant, nous devons faire de la théologie. Et l'Église nous demande de faire de la théologie. Alors on est subalterné à qui ? On est subalterné au Christ, qui a la vision béatifique. On est subalterné à Marie, qui a la vision béatifique. On est subalterné à tous les saints qui ont la vision béatifique. Alors vous voyez là l'importance de la tradition. Parce que c'est par la tradition que je suis lié à la vision béatifique. La parole de Dieu et la tradition. Qu'est-ce que c'est que la tradition ? C'est la parole de Dieu gardée dans le cœur des saints. Et c'est les cœurs des saints qui gardent la parole de Dieu. Et c'est par là qu'ils sont entrés dans la vision béatifique. Donc, la science subalternée à la vision béatifique. C'est-à-dire, c'est une science qui, parce qu'elle est subalternée à la vision béatifique, c'est une science qui ne dira que le commodo, le comment. C'est une science du pose. C'est pas une science de ce qu'est Dieu, du tiesti. C'est pas une science du tiesti. Donc c'est pas une science du pourquoi. C'est aussi très intéressant. Vous voyez comment la laïcisation de la théologie conduit au positivisme. Le positivisme cherche que le comment. C'est très juste quand il s'agit de Dieu. Mais c'est terrible quand il s'agit de l'homme. Ne recherchez que le comment de l'homme, c'est tomber dans le positivisme. Ne recherchez que le comment de Dieu, c'est être dans la théologie scientifique, simplement. Alors si vous laïcisez la théologie, vous n'arriverez très tout de suite à ne chercher que le comment, le pose. La distinction du TST et du pose, Saint Thomas ne la fait pas. En théologien, il n'y a pas besoin de la faire, puisqu'il ne cherche que le comment. Il nous le dit au début de la somme, une fois que c'est dit, c'est fini. Il ne le répète plus. Il ne recherche que le comment. Et il ne peut chercher que le comment. Le théologien ne peut chercher que le comment. Il ne peut pas chercher le tiesti. Parce que science subalterne à la vision béatifique. Science subalterne à la vision béatifique. C'est une science subalternée, c'est une science du comment. Comment Dieu existe-t-il ? Comment Dieu existe-t-il ? Si c'est une science du comment, ça présuppose le point de vue du jugement d'existence, mais ce n'est pas ça qu'on regarde. C'est la manière d'exister. Le comment, c'est la manière d'exister. La manière d'exister de Dieu et de l'homme. C'est pour ça que je vais dire. Manière d'exister de Dieu et de l'homme. Or, pour préciser la manière d'exister de Dieu et de l'homme, vous voyez bien que je ne peux pas me servir de principe, puisque la théologie ne dit pas le pourquoi. Je ne peux me saisir que des rationnels. Quels sont ces rationnels ? Quand il s'agit de Dieu, il est absolument simple. Je montre que la manière d'exister de l'homme est une manière composée. Et que la manière d'exister de Dieu est au-delà de toute composition. Pourquoi ? Parce que en Dieu, la raison d'acte est parfaitement réalisée. La ratio. Pour pouvoir dire que Dieu est absolument saint, je me sers de cette raison philosophique, la ratio actus. C'est très beau du reste. Hein? Dieu étant l'être premier, en lui, il ne peut y avoir aucune potentialité. Si en Dieu, il ne peut y avoir aucune potentialité, et c'est la ratio actus qui me permet ça, de dire aucune potentialité, puisque l'acte est antérieur à la puissance, et que Dieu est premier. Donc si Dieu est l'être premier, il n'y a aucune potentialité en lui. S'il n'y a aucune potentialité en lui, je dois supprimer toutes les divisions. toutes les compositions, parce que toute division et toute composition présuppose la puissance. Donc en Dieu, il n'y a aucune composition, aucune division. Et pour avoir un mode scientifique, j'énumère toutes les compositions, et je vois toutes les compositions, et je les nie successivement. Et j'aboutis à dire, il est tout à fait simple, conclusion scientifique, d'une conclusion, d'une science subalternée, qui me dit le comment premier de Dieu. Alors, vous n'avez qu'à réfléchir sur ce point de vue-là, et vous comprenez que ce que le philosophe apporte aux croyants, aux théologiens, ce sont ces rationes. J'allais presque dire, vous voyez, c'est la critique, la philosophie critique. C'est la ratio entis et la ratio des transcendentaux qui va être au service de la foi. Et ces rationes qui me sont données à travers la sagesse philosophique. Je crois plus immédiatement encore à travers la sagesse philosophique, tout à fait purifiée par la critique. Quand je dis. Je n'ai pas besoin de la parole de Dieu, mais d'une certaine manière, je me repose sur la parole de Dieu, je suis. Vous voyez ?